21h05, très heureux de vous retrouver, comme je le disais tout à l'heure. Bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous à l'instant même. Donc, début d'une nouvelle saison, je le fais. Tout à l'heure, on a bousculé un petit peu l'introduction parce que je voulais absolument parler, m'entretenir avec Sylvain Bruno pour parler de la victoire qui ma foi, qui m'a procuré toute une dose d'énergie. Je le disais tout à l'heure, c'est comme si j'avais bu une caisse de Red Bull. J'ai jamais bu une caisse de Red Bull, là, mais... C'est ça le sport, hein? Je disais le tweet de David Arsenault tout à l'heure pendant la pause. Ben oui, on regarde du sport exactement parce que ça il y a quelque chose d'inspirant, pas toujours. Des fois, c'est décourageant, déprimant aussi quand on s'attache à une équipe ou à un athlète qui ne performe pas. Il y a des moments difficiles, mais quand on vit des moments historiques comme ceux auxquels nous a fait vivre par procuration Leila Hernandez aujourd'hui, là, c'est la plus jeune joueuse en 16 ans de l'US Open à atteindre la demi-finale. Bref, encore sur le buzz de ça, mais la tête aussi aux nombreux sujets qui vous préoccupent, amateurs de hockey, préoccupent est peut-être un grand mot, quoique on est encore là un petit peu dans la queue de la comète de je dirais pas de l'échange, mais oui, l'échange de Vorak et aussi le fait de ne pas avoir à côté, de ne pas avoir égalisé l'offre hostile aux Hurricanes de la Caroline. Et de plus en plus, alors qu'on va s'approcher du début du camp des recrues puis du début du camp d'entraînement, dans l'appréciation des changements effectué par Marc Bergevin cette année, à savoir quel genre d'équipe nous aurons. On vient quand même de goûter à la première finale de la Coupe Stanley depuis 1993. Je ne sais pas si pour vous, amateurs, c'est le plus gros moment de hockey depuis 93, pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de 93, sinon je ne sais pas si c'est lequel. Le fait qu'on l'ait vécu, je dirais pas à moitié, parce qu'on l'a vécu pleinement via la télévision, mais à moitié par rapport à... Tu sais, on regarde les performances au US Open, le public qui transporte les athlètes, Leila Fernandez qui les remercie. Le Canadien, ben c'est correct que ça a été fait de même, c'est les raisons de santé publique qui primaient. Mais j'ai hâte de voir si toute cette énergie-là qu'on n'a pas pu manifester envers l'équipe, si vous la gardez en réserve pour la prochaine saison, ou bien si les nombreux événements qui ont ponctué l'été ont fait en sorte de un petit peu vous refroidir certaines ardeurs partisanes. On va jaser tout ça au cours des prochaines semaines, des prochains jours. À l'instant même, c'est un plaisir. On l'accueille dans l'équipe des amateurs de sport en pleine série éliminatoire. Il connaît ça, les séries, évidemment, avec tous les matchs où il a eu l'occasion d'être impliqué avec les Hawks de Chicago et le Canadien de Montréal. Stéphane White qui est avec nous ce soir en direct de Sherbrooke. Bonsoir, Stéphane.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va vraiment bien, et toi? Sûrement que tu regardais un petit peu de baseball aussi, les Blue Jays qui mènent 4-1, à moins que le pointage ait changé dans les dernières secondes contre les Yankees?
Non, la dernière fois que j'ai regardé, c'était encore 4-1, puis c'est certain que j'ai regardé les Blue Jays.
Ouais, c'est sûr. Penses-tu que, juste avant d'entrer dans nos gros sujets, Stéphane, là, penses-tu que ça commence? Écoute, ils peuvent en gagner une sixième de suite ce soir. Ils sont en feu, Semiens, Guerrero, hey, tout un club de baseball, m'a dit, là.
Sont incroyables. J'ai regardé la plupart des matchs, la dernière série contre les As d'Oakland, et puis ils sont hot, et puis tout le monde frappe, et puis les lanceurs sont moyens,
oui,
de mon perspective, mais quelle puissance au bâton, puis ils sont encore jeunes, hein, les Blue Jays, ils donnent un bon show, ils sont le fun à regarder.
Surtout quand l'attaque décolle, à un moment donné, t'es un petit peu au ralenti. Fait qu'on aura l'occasion avec Stéphane. Stéphane est un amateur de sport, là, tout court, un grand amateur de baseball et un spécialiste, une éminence en hockey en matière de gardien de but. Puis on est très heureux de que tu te sois joint à nous, non seulement pour les séries, mais dans l'équipe des amateurs de sport. Stéphane, on va avoir du fun. Comme tu le souhaites ardemment, que tu me l'as rappelé encore sur le terrain de golf. D'ailleurs, j'ai l'impression que tu te pratiquais un peu. T'as bien hâte qu'on se pogne. Je sais pas, ça va être quoi le premier sujet sur lequel on va...
Je sais pas, là. Je suis prêt pour ça, puis non, puis là, c'est le fun de t'entendre en radio, parce que sur le terrain de golf, là, les clackers n'arrêtent pas, et puis j'avais hâte que tu gardes ça pour la radio.
Ah, il est temps que je revienne en onde, c'est vrai que, mais qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, c'est parce qu'il y a pas, l'enjeu n'est pas assez gros, tu sais, je le sais que je vais manquer. Non, mais j'en ai pioché une solide, c'est ma pire game des 5 dernières années que j'ai joué avec vous autres, puis je dirais pas c'était quoi mes excuses cette journée-là. Stéphane, les gros sujets, c'est le sujet numéro un pour toi de tout l'été du Canadien depuis le lendemain de la finale. Es-tu capable de mettre un classement là-dessus? C'est quoi le... Toi, en matière de gardien de but, c'est-tu le fait que Carey était exposé au balotage ou toi, il n'y avait pas d'histoire là?
Non, il
n'y
avait pas d'histoire là. Et puis, non, je pense que la plus grosse chose, j'ai trois choses en tête qui sont pour moi égaux. C'est la perte de Philippe Dano, l'offre hostile à KK et puis la signature Dvorak. Fait que moi, c'est les trois grosses affaires qui ont retenu mon attention. Mais ça va être, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Commençons par Philippe Dano. Tu l'as mis au premier rang donc de tes sujets, considérant que l'exposition au balotage de Carey, c'était pas une grosse histoire. On reviendra à Carey tout à l'heure. Philippe Dano, si tu étais l'architecte de cette équipe-là, Stéphane, je t'en pose une où tu vas te mouiller en partant. Est-ce qu'il sera encore un Canadien de Montréal?
Au bon prix, oui. Et au bon prix, oui. Puis c'est facile de dire ça. Philippe Dano, j'ai tout aimé Philippe. Et puis... mais Philippe Dano, je savais depuis le début de l'année passée que ses jours, c'était fini. Et puis, par ses demandes, quand j'ai vu ses demandes au début de la saison dernière, j'ai dit « Oh my God, ce gars-là, il se voit beaucoup plus gros qu'il est. » Et puis, c'est rien contre Philippe. Là. Comme j'ai dit, j'adore Philippe. Et puis, mais au bon prix, oui, mais à ce prix-là, non.
Et est-ce que tu as senti vite en début de saison l'an passé? Donc, toi, tu regardes, les chiffres sortent et tout ça. Donc, t'es-tu conscient que ça, comment dirais-je, la relation de Philippe puis l'équipe va être compliquée parce que sans que ça devienne une distraction, puis ça l'est devenu par moment, là. Il produisait pas beaucoup de buts, puis bon, Claude ouais. Julien dirigeait l'équipe. De quelle façon tu penses que. Ouais, donc, toi, tu savais que c'était sa dernière année, qu'il n'y avait rien à faire pour échapper à ça?
Bon, la seule affaire qui
c'est
qui décide, qui diminue considérablement le montant qu'il exigeait. Et puis, à part de ça, je voyais pas comment que le Canadien pouvait s'entendre. Et puis, c'est de valeur parce que, écoute, c'est un Québécois, j'adore Philippe, mais on me dira ce qu'on voudra, que c'est un bon joueur de centre, que c'est un gars qui affronte les meilleures lignes de l'équipe adverse. On me dira tout ce que tu voudras, mais à 5.5 pour un gars qui a sa plus belle grosse saison, c'est 13 buts. À un moment donné, là, t'as une logique à respecter, t'as un cap salarial à respecter. Et puis, tant mieux pour Philippe. Il a eu ce qu'il voulait. Un très bon contrat des Kings. Mais je persiste à croire que c'est beaucoup trop.
Ça veut dire que le fait qu'il y ait un centre important, Steph, là, avec lequel tu t'es rendu en finale, je suis d'accord avec toi que le prix par rapport à sa production offensive.
Ouais.
Mais tu sais, le fait qu'il se rende en finale quand même.
Non, ça n'a rien changé pour moi.
Mais Toronto n'est pas en finale, Edmonton n'est pas en finale, il y en a des stars. Nous autres, c'est bien beau, oui, je regarde la production de Philippe, c'est sûr, c'était pas des gros charges. Mais il reste que, tu penses pas que ça méritait de je fais l'avocat du diable, de défier la logique, considérant que c'est quand même un morceau important que les meilleurs joueurs de la Ligue félicitent particulièrement après les séries, puis qu'ils considèrent que c'est un des éléments qui a permis des battes, qu'ils ont neutralisé. C'était un des rares francophones. T'as beau d'engager 3-4 autres l'année d'après pour te faire oublier, un des rares francophones. Puis lui, c'est pas des blabla, là. Il l'a fait, il était le centre, même avec pas d'offensive. Il fait partie de cette équipe-là qui s'est rendue en finale. Puis tu lui dis bye-bye sans qu'on se soit même rejasé de l'année, probablement, parce que tout le monde est resté boqué. C'est vrai que c'est triste, puis c'est de valeur.
C'est de valeur pour qui?
Ben, c'est de valeur pour l'appartenance puisque ça représente pour le Canadien de Montréal.
C'est pas de valeur pour Philippe en ce moment parce que Philippe, il a le contrat qu'il voulait. Et puis, c'est de valeur pour peut-être les fans qui s'identifiaient beaucoup à Philippe. Mais, en fin de compte, un gars là, qui est capable de contrer l'adversaire, là, il y en a beaucoup là, que tu peux avoir là, à 1 million, à 2 millions, puis à 3 millions maximum, qui vont faire tout un job. Puis là, je pense tout de suite à un gars comme Jake Evans, qui va faire, d'après moi, c'est mon opinion à moi, aussi bien que Philippe, au niveau de contrer l'adversaire.
C'est pas impossible, mais en même temps, Steph, j'ai envie de te relancer. S'il y en a tant que ça, des gars à 1, à 2, puis à 3 millions qui font le même job que Philippe Dano, tu veux-tu bien me dire que c'est qu'ils font endormir au gaz tous les clubs qui ont des stars et sont pas capables de freiner gros trio de l'autre bord? S'il y en a tant que ça, des gars de même, comment ça se fait que Toronto, que je sais qu'il y avait Hyman, tout ça, mais tu sais, ça semble un problème pour plusieurs équipes. Puis d'ailleurs, là,
oui.
Ouais.
Oui, mais ces gars-là sont, il y en a beaucoup, mais ces gars-là, c'est des joueurs de troisième ligne, Mario. J'ai gagné la Coupe Stanley, moi, à Chicago, avec un David Bolin, qui aujourd'hui, là, on peut vous dire que c'est un Philippe Dano. C'est notre troisième centre. Et puis, c'était un gars qui était qui valait pas, là, on va dire ça, on je sais que c'est là, il y a déjà 10 ans de ça, mais Philippe, tu le mets à Tampa Bay cette année, une équipe championne de la Coupe Stanley, c'est un troisième centre, ok? Si tu veux gagner la Coupe Stanley, Philippe, il peut pas être dans tes deux meilleurs centres, puis tu payes pas un joueur de troisième trio, un centre de troisième trio à 5.5, c'est beaucoup, trop.
Écoute, Stéphane, les gens vont s'habituer. Ils sont pas habitués d'avoir quelqu'un qui dit exactement ce qu'il pense. Puis je leur ai dit, hey, vous le connaissez pas, vous autres. Il était comme ça bien avant d'arriver dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas juste des amis, lui, dans le monde du baseball, à Sherbrooke, dans le
Sénat. Non.
Hein, Steph?
non, je veux revenir et peut-être finir avec Philippe. J'adore le gars encore, mais faut être réaliste. Un Philippe dans une très bonne équipe, c'est un troisième centre. Qui dans la Ligue nationale, Mario, va payer un troisième centre 5.5? J'aimerais que tu m'en nommes tout de suite.
Mm-hmm. Non, écoute, je le sais. Non. Je faisais la. Ben, ça et dépend. Puis, non, mais ça dépend. Qui va payer un gardien de but 10.5? Tu sais, il y en a qui vont loin avec des gardiens à 3.
C'est qui? Tampa Bay vont le payer, ce sera pas long parce que c'est ce qui vaut le gardien de but, oui, puis c'est le meilleur dans la Ligue en ce moment. Et puis, mais pour finir avec Philippe, je pense que les Canadiens l'ont très, très, très bien remplacé avec Dvorak, qui est pour moi un meilleur joueur que Philippe, à moins cher, plus jeune. Ils l'ont remplacé avec Dvorak. Pour moi, Dvorak, il remplace pas Keke, il remplace Philippe.
Tu trouves-tu que écoute, puis Keke parle, incluons Keke, on viendra peut-être à Dvorak, donc très positif. Tu te souviens-tu, l'as-tu connu comme, l'as-tu vu aller un peu, Steph, quand même? T'étais-tu encore dans l'Ouest ou pas vraiment? T'as regardé du vidéo des chics, tu regardes plein de matchs de hockey, même quand c'est pas le Canadien, là, t'en manges.
Ouais, Dvorak?
Ouais.
Oui, j'ai une très belle opinion de lui, j'ai une belle image de lui, puis je sais exactement de quelle sorte de joueur de hockey qu'on parle.
Fait que tout ce que tu nous as dit, Stéphane, là, exactement, que pour avoir passé par Chicago, tu nous as identifié le centre numéro 3, puis sans parler au nom de Marc Bergevin, évidemment, mais on peut penser que Marc Bergevin, puis je pense qu'il l'a dit de d'autres façons, lui aussi est arrivé à Montréal avec ça dans la tête, il a vu la progression de Philippe, puis lui aussi se disait, avec l'image de Chicago qui a gagné la Coupe, qu'un troisième centre, ça peut pas gagner plus qu'un certain montant. J'ai l'impression que, dans le fond, il pourrait dire en d'autres mots exactement ce que tu nous dis. Donc, vous êtes inspiré un peu de la même vision d'une équipe gagnante inspirée de Chicago.
Oui, exactement. Et puis, la seule et unique raison que Philippe Deneau n'est plus à Montréal, c'est le système du cap salarial. C'est pas de ça, mais on va lui donner son 5.5 pour qu'il soit un troisième joueur de ligne. Mais avec la réalité du cap salarial, ça n'a aucun bon sens.
Quand l'offre hostile est débarquée, je sais pas de quelle façon Marc Bergevin a pris connaissance, tel qu'il l'a dit dans le point de presse hier, j'ai dit wow. Puis là, ben, il a regardé ce qu'il pouvait faire avec ça. Quand tu as pris connaissance, moi, je me souviens, c'est quand, donc c'était le matin, je regarde mon téléphone, boum, je vois l'annonce de l'offre hostile. Toi, quand tu as appris ça, qu'est-ce que tu t'es dit, l'offre hostile des Hurricanes?
Ah, la première réaction, j'ai dit, c'est payback time. Comment on pourrait traduire, lancer le temps de payer les derniers pots cassés. Et puis, j'étais surpris. Puis en même temps, c'était comme, oui, surprenant. Et puis en même temps, ça m'a fait sourire dans le sens que, bon, oh my God, le propriétaire n'a pas oublié. Je parle du propriétaire des Hurricanes.
Donc, quand Waddell dit qu'il n'y a aucun sentiment de vengeance qui animait ça, c'est juste l'intérêt pour le joueur, tu ne crois pas complètement?
Bon, personnellement, moi, j'ai un gros doute là-dessus. Surtout connaissant un petit peu la personnalité de M. Dondon à Caroline. C'est un gars qui amène large et qui est très, très fier, très confiant. Et puis, non, j'ai pas été surpris. J'ai été surpris, mais à quelque part, ça m'a fait sourire. Le monde du hockey, c'est un monde qui a une mémoire très, 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 très courte.
Quand tu dis payback time, temps de peut-être payer pour les pots cassés, j'aimerais ça que tu t'expliques. Tu l'avais arrivé, Keke, là. T'étais là. C'est tout de suite après une des années très, très difficiles. L'année que, disons, pour résumer, que j'ai baptisé l'année de l'attitude, là, ou des drapeaux rouges, appelle-les comme tu veux. Keke arrive au camp d'entraînement. Je veux dire, bon, Marc, il dit hier, c'est facile après. Il y en a qui le disaient dès là, mais ça, on le fait graduer vite. Je veux dire, comment tu regardes la situation de Kéké? Comme un mauvais développement, mais on n'a pas repêché le bon gars?
C'est une question qu'on va pouvoir répondre encore dans quelques années. Premièrement, faut pas oublier que Kéké a 21 ans. Ça, là, faut pas l'oublier. 21 ans, il n'y a pas beaucoup de jeunes de 21 ans dans la Ligue nationale qui ont le nombre de parties de jouer que Kéké a joué à date. Pour moi, Kéké, c'est un manque de maturité. Et puis, quand il parle de son développement, je pense qu'il devrait premièrement se regarder dans le miroir. Et puis, c'est un jeune qui, j'ai comme l'impression que c'est un petit peu un enfant roi, ce qu'il a tout le temps eu, tout cuit dans toute sa vie. Beaucoup de talent, un bon kid. Je pense que c'est un gars qui, avant de blâmer tout le monde, devrait se regarder dans le miroir. Puis je pense que ça va venir avec l'âge puis avec la maturité. Pour moi, Kéké, c'est un jeune encore qui est très naïf, qui est un petit peu un petit peu overconfident, très confiant. Et puis avec l'âge, je sais qu'il va devenir beaucoup meilleur. Puis même avec l'âge, je pense qu'à un moment donné, il va valoir qu'est-ce qu'ils ont donné en ce moment, même s'il ne vaut pas ça en ce moment.
Est-ce que tu aurais été tenté de l'accoter, l'offre, considérant ce que tu nous dis là? Parce que c'est sûr, puis je suis d'accord avec Marc Bergevin, tu dis non spontanément. C'est que, bon, gagner un certain salaire, c'est une chose, mais être surpayé pendant, mettons que ça prend 3 ans avant qu'il devienne un joueur de 6.1, 3 ans surpayé à Montréal, ouais. Hey, c'est ouf. Je vais te dire, peut-être pour les Coyotes de Phoenix, mais pour les Canadiens de Montréal, là, comme disait l'autre, l'année va être longue.
Oui, l'année va être longue, mais il va être très bien entouré. Moi, Kéké, écoute, moi, Mario, je l'ai vu à ses 18 ans. Et puis, c'est un gars qui est arrivé avec une belle naïveté. Et puis, où ce qu'il découvrait tout le monde de la Ligue nationale. Il était comme émerveillé sur tout. Et puis, il est arrivé, il souriait tout le temps. Pas vraiment de pression, parce que, tu sais, à 18 ans, même lui, je suis certain qu'il ne s'attendait pas à faire l'équipe. Et puis, le grand sourire, je pense qu'il a conquis le cœur de tout le monde à Montréal, les partisans et tout le monde, les médias, avec sa naïveté, son sourire qui était il y avait un sourire charmant, à la Joker. Il y avait tout le temps le sourire pendu jusqu'aux oreilles. Et puis, à un moment donné, c'est devenu plus pesant pour lui, plus difficile. La deuxième année, je le voyais sourire moins souvent. Et puis à chaque année, les 3 dernières années, son sourire, il baissait. Puis il est devenu, il a eu un sourire à la Joker, puis jusqu'à à la fin, un sourire à la Bill Belichick avec les Patriots. Fait que j'ai vu descendre son sourire, puis ça, je pense, ça le décrit bien son état d'esprit dans les 3 dernières années. Où ce qu'au début, tout était beau. À un moment donné, il a vécu de l'adversité. Il a pas aimé ça. Il a remis souvent en question les décisions d'entraîneur. Je me souviens, à un moment donné, où ce que, une petite anecdote, où ce que, pendant un match, Claude Julien, il fait part d'une remarque. Et puis, le jeune Kéké, à 19 ans, à cet âge-là, il roule les yeux en voulant dire, hey, lui, là, il connaît quoi, lui? Claude Julien, un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale. Donc, tu peux avoir un petit peu la petite arrogance de Kéké là-dessus, où c'est le jeune qui connaît tout, qui sait tout, puis qui pense qu'il est meilleur que tout. Donc, je pense que ça lui a fait très du bien d'aller dans les mineurs, surtout au niveau de son ego. Et puis, il est revenu fort dans les playoffs, dans la bulle. Et puis l'année passée, mais on s'attendait à beaucoup de Kéké. Et puis, il est revenu souvent dans ses mauvaises habitudes. Et puis, pour moi, c'est pas une question de talent. C'est pas une question de développement. C'est une question de maturité. Et puis, avec l'âge, je pense qu'il va devenir un très, très bon joueur de hockey dans la Ligue nationale.
Écoute, c'est très, très complet comme analyse de la personnalité de ce que tu as vu de Kéké. Est-ce que le Canadien a une petite partie du blâme dans la façon dont ça s'est passé avec lui? Steph, j'aimerais ça que tu me répondes à ça. Après la pause, hein, c'est un bon teaser, okay. Ça.
Parfait.
À tout de suite. Avec Stéphane White aux Amateurs de sport. En ce 7 septembre, c'est la rentrée des amateurs. Merci d'être là. En compagnie de Stéphane White, on était avec les gars de la Poche Bleue tout à l'heure. Un petit peu plus tôt, on a commencé l'émission. Là, au diable, l'ouverture qui était prévue. Il fallait absolument parler à Sylvain Bruno parler de la victoire de Leila Fernandez cet après-midi. Quelle performance. Félix Auger, est-ce que Félix est embarqué sur le terrain au moment où l'on se parle? On va mettre les téléviseurs au bon poste. 4-1 toujours les Blue Jays contre les Yankees. C'est bien ça. Juste être sûr que je donne les informations à jour. Mon petit Internet... Félix mène 3-2 en première manche, donc on va ajuster les bons canons ici, on va suivre ça. Et 4-1 toujours les Blue Jays de Toronto sur les Yankees. Avec Stéphane, donc. Stéphane, t'as bien décortiqué là, les aspects peut-être qui ont fait en sorte que Keke, des fois, se compliquait. Il avait un bon égo, une bonne opinion de lui-même. Mais en même temps, puis je dis pas qu'ils vont tous réagir comme ça, mais quand tu gagnes un poste, tu sais, comme je dis pas qu'il l'a pas gagné son poste, mais il me semble qu'en tout cas, de l'extérieur, ça vite, surtout à mi-saison, c'était évident là, qu'il était plus capable de suivre. Puis quiconque est dans la ligue depuis le temps que t'es dans la ligue, tu le sais qu'après les fêtes, c'est une autre ligue. Puis avant les séries, c'est une autre ligue. Puis les séries, c'est une autre planète. Je veux dire, c'était comme... Tu le sais que ça va être tough pour un kid quand tu l'entres à 18 ans. Puis Marc, il l'a admis hier. Mais il y en a qui pensaient ça il y a 3 ans, là, pas juste après 4 ans. Est-ce que dans l'organisation, ça discutait-tu fort sur la place où devrait jouer Keke quand il est arrivé? Ou c'était comme tout le monde était unanime? Non, c'était à Montréal, sa place.
Je peux te dire que quand, la première année, il était pas dans les plans. Et puis, il a gagné sa place. Puis Marc, dans ce temps-là, je pense qu'il n'a pas changé. Il disait tout le temps... C'est les joueurs qui vont décider s'ils font l'équipe ou pas. Et puis, Keke, lui, a décidé qu'il faisait l'équipe. Parfaite performance. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est facile de juger. C'est très, très, très facile. Mais dans ce temps-là, ça a été une discussion, ce qu'on fait avec. On le garde-tu, on le remet, on le renvoie-tu en Finlande ou en Ligue américaine. Pour être bien honnête, j'étais pas très impliqué dans ces discussions-là parce que moi, ma job, c'était avec les gardiens de but. Mais je sais que ça s'est parlé. Et puis, mais à quelque part, le kid avait mérité sa place. Et puis, ça, c'est quelque chose que Marc a tout le temps fait. Puis Marc, il l'a fait avec Garth Chignoc dans ses premières années. Puis Marc, il l'a fait avec Gallagher dans ses premières années. Et puis, ça, des fois, ça a marché. Puis des fois, ça marche pas. Tu peux pas prévoir vraiment le futur. Mais aujourd'hui, c'est facile à dire que oui, à 18 ans, peut-être que c'était trop vite.
Ouais, écoute, en même temps, si on avait repêché Brady Tkachuk, on parlerait pas de tout ça. Hein? Tu penses qu'on a racoté l'offre à Brady Tkachuk à 6.1, on se serait entendu bien avant qu'il s'expose à une offre hostile?
Probablement qu'on l'a racoté. Mais encore là, Brady Tkachuk, dans ce temps-là, on recherchait un gros centre qui pouvait jouer dans les deux premières lignes. Et puis, ils ont pris le meilleur gros centre disponible à ce moment-là. Et puis, tu peux pas, c'est dur de second-guesser. C'est facile de second-guesser, mais c'est dur de faire les choix au moment. Mm-hmm. Et puis, écoute, aujourd'hui, c'est certain que la question se pose pas.
Non, c'est sûr. Puis, mais je suis d'accord avec toi. Puis, c'est pas de dépecer Kotkaniemi. Je pense qu'on est tous pas mal d'accord. S'il transforme là, son caractère, puis avec un peu plus de maturité, je sais pas s'il va devenir, je disais ça, là, dès l'an 1, va-t-il un jour devenir, surtout dès l'an 2, là, à fin de l'année 1, va-t-il un jour devenir meilleur que Lars Eller, que Jacob Delarose, des gars qu'on a fait grimper très, très vite également. Mais dans le cas d'Eller, moi, c'est pas une insulte, là. Eller, c'est un bon joueur de troisième trio de la Ligue nationale qui a gagné la Coupe avec Washington. Je sais pas si un jour il va être un joueur plus important que ça dans une équipe.
Moi, j'en suis convaincu, Mario. J'en suis convaincu. Il y a beaucoup plus de talent brut. Qu'un gars comme Lars Seller ou tu parles de Jacob Delarose, que les deux, je les ai très bien connus. Il y a beaucoup plus de talent que ces deux gars-là. Il n'y a aucun doute. Je suis certain qu'il va devenir un très, très bon joueur de la Ligue nationale avec la maturité. Avec la maturité, avec l'âge, tout, il va prendre de la force physique. Keke est encore un vieil ado. Il est encore... Son corps n'est pas développé. Il n'est pas très fort au niveau des jambes. C'est un gars qui tombait beaucoup quand il se faisait frapper. Puis ça, c'est un signe où son corps n'est pas développé à pleine maturité. Moi, avec Keke, je pense que c'est le mot-clé, c'est maturité, mentalement et physiquement. Et puis, mais quand il va avoir atteint ces deux affaires-là, watch out. Surtout, j'aime l'entourage où ce qui va être avec Tyree Bonin en Caroline et Sébastien Aho, deux Finlandais très talentueux qui vont avoir, je pense, une super influence sur lui. Et puis l'autre chose qui n'est pas négligée, il va être coaché par tout un entraîneur qui est pour moi un des meilleurs dans la ligue, Rod Brind'Amo. Et puis, je suis convaincu qu'il va devenir un très bon joueur de hockey. Sauf qu'en ce moment, le seul hic, c'est qu'il ne vaut pas 6.1.
En tout cas, j'aurais aimé ça que tout ce que tu dis là qu'au-delà du sourire, tu dis qu'il a gagné un poste, mais de constater qu'il était un freluquet, qu'il était un grand maigre, j'aurais aimé ça, moi, qu'il joue une année dans la Ligue américaine ou une année de plus en Finlande. Puis peut-être qu'il y aurait une attitude différente, tu sais.
Probablement. Puis, écoute, la presque demi-saison qu'il avait joué avec le Rocket à Laval, il avait été très, très, très bénéfique. Très, très, très bénéfique. Et puis, de là, la preuve que peut-être qu'on est allé trop vite avec lui.
Penses-tu qu'il peut devenir aussi bon que Sean Couturier?
Sean est plus complet. Plus de.
Il est bon défensivement. Lui, il a gagné son poste en contrant les adversaires. Puis après ça, il a amené de l'attaque.
Oui, exactement. Sean, écoute, c'était le Sean Couturier, c'est le full package. Et puis, il y a tout. Il y a le côté attaque, puis il y a le côté défensif. Et puis, je ne crois pas qu'il va devenir un Sean Couturier, parce que son niveau défensif ne sera jamais là, mais je pense qu'il peut devenir un des bons deuxièmes centres dans la Ligue nationale. Encore là, on oublie qu'il y a 21 ans. Mm-hmm. C'est incroyable.
C'est le salaire, comme tu dis, c'est l'offre hostile là, qui vient tout bouleverser la patente. Là,
ça a l'air à ça.
C'est...
Ça a l'air à ça.
Dans les autres gros sujets, donc Kotkaniemi, Dano, Tatar est parti, Perry parti, Keke, Shea Weber absent toute l'année. Quelle absence va se faire le plus sentir avant qu'on parle des remplaçants? Bien, en même temps, empêche-toi pas de parler des remplaçants parce que ça vient avec Hoffman, tiens, Dvorak, oui. Mathieu Perrault, Cédric Paquette, David Savard. Au change, là, on gagne ou on perd quand tu regardes ce qui part et ce qui arrive?
Je n'ai pas l'équipe qu'ils ont en place. La seule affaire qui va manquer pour moi, le seul plus gros problème, c'est le leadership que Weber n'est pas là et puis Perry n'est pas là. Et puis ça, là, c'est deux gros morceaux à l'intérieur. Deux très, très, très gros morceaux. Pas au niveau des performances, au niveau du leadership, puis de l'exemple, puis de tout ce qui amène dans cette chambre-là. Et puis, pour moi, c'est la plus grosse perte, c'est ces deux-là ensemble au niveau du leadership. Pour le reste, je pense qu'ils ont bien remplacé. Ils ont bien remplacé Philippe Dano par Dvorak. Je pense que, moi, personnellement, je pense que Christian Dvorak est un meilleur joueur de hockey que Philippe Dano. Et puis, Mike Hoffman, ben, il va remplacer Tatar. Les goals que Tatar n'a pas là, Hoffman, il va les amener, puis même en plus. Je ne suis pas un gros fan de Mike Hoffman, mais il y a une affaire qui sait faire, c'est scorer des goals. Et puis, après ça, mais tout un gars comme Mathieu Perrault, pour moi, qui remplace un Eric Staal ou un Corey Perry au niveau de la production. Et puis, j'ai David Savard c'est tellement de valeur que Shea Weber ne sera pas là parce que j'aurais vu David Savard sur une troisième paire avec Romanov. Ça aurait été, imagine ça, là, Weber avec Chiarot, Petrie avec Edmundston, puis Savard avec Romanov. Ça aurait été wow. Et puis, sauf que Savard, il va remplacer Weber. Écoute, Savard, c'est pas Weber. Mais j'adore Savard. Moi, là, j'ai tout un temps fan de Savard. Je l'ai connu surtout quand je jouais à Columbus. Puis à toutes les fois qu'on jouait contre Columbus, je le trouvais tellement safe dans sa zone. Une bonne première passe. Il jouait physique. Il était bon dans tout. Il était pas excellent dans rien. Il était bon dans tout. Et puis, j'adore ce genre de défense-là. Donc, je pense qu'ils ont remplacé. Pour moi, le seul qu'ils n'ont pas vraiment remplacé, c'est Keke, parce que, comme je te dis, Dvorak, il remplace Perrault. Hoffman, pour moi, il remplace Tatar. Et puis, après ça, mais il n'a pas remplacé Keke en ce moment. Et puis, mais j'aime les équipes, honnêtement. Mais comme je te dis, mon seul problème, c'est le leadership dans la chambre, qui va s'occuper. Oui. Puis les deux qui m'ont très impressionné l'année passée, c'était Weber et Corey Perry.
Ah, Perry, je l'ai adoré. Honnêtement, je suis tombé en amour avec le gars. Puis, tu sais, pas que j'avais pas constaté bien avant que c'était un grand joueur de hockey, mais bon, il jouait pour des équipes, je sais pas, tu sais. En tout cas, je l'ai découvert sous un autre angle. Je l'avais découvert sous cet angle-là aussi quand il jouait pour l'équipe Canada dans les championnats internationaux, mais là, dans l'uniforme du Canadien, là, je pense que tout le monde est tombé en amour avec. Mais je reviens au leadership. Perry a beaucoup contribué. Mais là, tu dis, en l'absence de Weber. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revoir Weber, si on voit Weber un jour. Et de Carey. Et là, je ne sais pas si tu as de l'info sur Carey. Est-ce que Carey... parce que l'info qu'on a actuellement, c'est qu'il se présenterait au camp d'entraînement, là, qui commencerait pas mal en même temps que tout le monde. C'est-tu ton impression ou pas?
Oui, c'est ce que j'ai jamais douté aussi, de même quand il a annoncé qu'il était opéré, que peut-être que sa saison serait retardée. J'ai tout le temps pensé ça, que c'était un petit peu... un jeu de coulisses pour pas que Seattle le repêche. J'ai jamais eu un doute, surtout de la façon qu'a fini ses playoffs. Les trois derniers games que j'ai joué contre Tampa Bay, il n'y a pas l'air d'un goaler qui était blessé, je peux te dire ça, moi. Donc, j'ai jamais eu l'impression que son début de saison serait en jeu. Et puis, pour être honnête, je suis encore en contact avec Carey. On s'échange des textes régulièrement. Et puis, le gars, il va très, très, très bien. Il s'entraîne, il est en forme. Et puis, je sais qu'il va être au camp d'entraînement, là, prêt à partir.
D'ailleurs, en fin de semaine, merci à son épouse, qui est quand même généreuse de quelques informations sur les allées et venues de Carey. Le fait que leur plus vieille est à l'école, ben là, ils sont au Québec plus tôt que jamais. En tout cas, ils sont très tôt cette année. Et ils ont été invités par les Byron à Notre-Dame-du-Lot. Fait qu'on a vu une photo de Carey au bout du quai avec les enfants. Fait que j'imagine que Mané, T-Paul et Carey sont trouvés au bout du quai. Je sais pas qu'est-ce que ça dit, deux gars qui ont été exposés au ballottage, quand ça se retrouve avec une course light sur un bout du quai, mon Steph.
Bon, ils doivent dire, c'est pas qu'ils reçoivent le chèque aux deux semaines, ils doivent dire, la vie est quand même belle.
Oh, tu peux être sûr. C'est la toune qu'on faisait jouer avec Guillaume tantôt, je sais pas si t'as entendu ça. Que c'est beau la vie.
C'est beau la vie, c'est exactement sûrement qu'ils ont chanté la version anglaise de celle-là.
Il y a des bonnes chances. Et dans le cas de KK, c'est drôle parce que tu dis que tu es encore en contact, puis ça vient un peu répondre à la question.
Avec
Carey. J'ai-tu dit KK, excuse-moi, merci de me reprendre.
Ben oui.
Écoute, j'en échappe une de temps en temps. Je suis content de compter sur des partenaires qui m'écoutent. Comme ça, ils vont pouvoir me dire quand je suis dans le champ. Mais justement, j'ai une couple d'auditeurs qui, de façon différente, me demandaient si tu avais revu Carey depuis la fameuse soirée où toi, ben, ton avenir professionnel a été bouleversé. Si tu l'avais revu.
Non, ben, je l'aurais vu le lendemain quand Carey est venu chez moi à Brossard. Et puis, on a passé 2 heures le lendemain de mon congédiement. Et puis, on a jasé de plein de choses, mais pour Carey. Ça a été une rencontre très émotive. Mais après ça, non. On s'est resté en contact. Une couple de phone call, d'appels téléphoniques. Et puis une coupe de texte, et puis il s'était là, et puis non, on se tient au courant, un des deux, comment que ça va, puis comment que nos vies vont, puis c'était une belle relation.
Écoute, je pense pas que t'avais, moi je le savais là en privé, mais je ne crois pas que t'avais dit ça publiquement, qu'il était allé te voir. Je me souviens pas si tu l'as dit, en tout cas, peut-être l'avais-tu dit.
Moi, je l'ai sûrement mentionné.
Mais, ça devait être un moment très particulier, au lendemain de ce que t'avais vécu, puis en même temps une belle marque de respect.
Très particulier, c'était pour revenir à cet épisode-là, le soir, quand Carey, après le match, avait appris... mon congédiement, il m'a appelé, et tout de suite m'a appelé, il est encore au Centre Bell, et puis il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui se passe, puis il était un petit peu sous le choc de l'apprendre, et puis j'ai dit, bon, j'ai expliqué qu'est-ce qu'il en était, et puis là, il m'a demandé, il dit, Steph, il dit, ça te dérange-tu si je vais te voir demain, là, après la pratique, j'aimerais tellement ça de te rencontrer, parce que je veux pas que ça finisse comme ça, puis je veux qu'on jase, puis... j'avais accepté avec plaisir, et puis il était venu me voir à mon condo, et puis on avait passé une couple d'heures à jaser de plein de choses, et puis c'était une belle rencontre, c'était très émotif, et puis ça montre le genre de gars qu'il était. qui est encore. Et puis, c'est un gars très humain. C'est un gars qu'on a eu et on a encore une très belle relation.
Bien, je suis content d'entendre ça parce que, écoute, tu peux pas passer d'aussi belles années avec d'aussi bons résultats dans son cas. Des fois,
écoute,
les résultats...
Mario, oui? On a passé 8 ans ensemble et puis 8 ans où je voyais plus souvent Carrie que mon épouse ou mon fils. Et puis, même chose pour lui. Donc, tu développes des sentiments assez spéciaux, des relations, des liens assez spéciaux. Donc, c'était le fun. C'était le fun de cette rencontre-là. Puis, Carrie, mais il va tout le temps rester un de mes favoris.
Ben, j'imagine. C'est une relation unique. Tu as travaillé avec Corey. Tu as eu quand même... Tu sais, les relations des gardiens, c'est différent parce que tu travailles, oui, tu connais toute l'équipe, mais tu développes une relation privilégiée, un peu comme un entraîneur des lanceurs, mais il y a plus de lanceurs que de gardiens de but dans un club. Fait que, veux pas, Corey Crawford. Abby Boulin, tu l'as connu, là.
Ah, écoute, tu développes une relation tellement spéciale avec ces gars-là. Tu parles d'Abby Boulin ou ce que... Le gars est en Russie, Esther, il coach les gardiens de but au niveau junior, l'équipe junior, nationale junior. Et on se texte ou on s'email régulièrement. J'ai adoré travailler avec Nicolas Abibolin, qui a déjà été un des meilleurs gardiens de but au monde. Je suis encore en contact avec un gars comme Corey Crawford, ou comme un gars comme en junior, Drew McIntyre, avec qui j'ai coaché, qui maintenant était nommé entraîneur de gardien de but dans la filiale de Winnipeg. Danny Sabourin, que j'ai coaché au niveau junior, qui maintenant est rendu entraîneur de gardien de but dans la filiale de San Jose. J'ai un gars comme Jean-François Labbé, que j'ai coaché longtemps au niveau mineur, et puis que je suis encore en contact avec lui, Timine, qui était l'entraîneur de gardien de but dans la filiale des Ducks d'Anaheim. So, c'est le fun de voir tous ces gardiens de but-là que j'ai entraînés à un moment ou l'autre dans leur carrière qui sont devenus des entraîneurs de gardiens de but au niveau professionnel. Et puis, j'ai tout le temps gardé des relations assez spéciales avec les gardiens de but que j'ai eu la chance, moi, d'entraîner.
Tu me fais penser, tant qu'à énumérer un paquet de noms de gardiens de but, là, pour les gens qui l'ignoraient, tu avais une relation avec Sean Burke, toi, avant qu'il vienne...
Très bien, oui. Puis j'ai encore une bonne relation. Sean Burke qui m'a remplacé, pour ceux qui ne savent pas, qui m'a remplacé à Montréal de à pied levé. Et puis, c'est un gars qu'on communiquait très, très, très bien ensemble. Et puis, c'est un gars qui a une belle carrière au niveau de gardien de but, puis même au niveau d'entraîneur de gardien de but avec les Coyotes de Phoenix. Et puis, Sean, c'était un des gardiens de but quand j'ai été congédié. C'était un des gars, quand j'ai été congédié, qui m'a texté le premier en voulant dire « Bon, mais Steph, je suis désolé, t'as fait tout un job, et puis t'as rien à te reprocher, puis tu peux avoir la tête haute. » Puis c'était le premier à me dire qu'il voulait pas ce job-là. Il l'a fait pour Marc. Il l'a fait pour aider l'organisation parce qu'il faisait partie de notre organisation. C'est un gars d'équipe. Je sais qu'il m'a tout de suite rassuré en me disant « Regarde, c'est pas moi qui voulais ta job, au contraire, je la voulais pas. » Et puis s'il aurait voulu, il serait encore là. Et puis, c'est un gars que j'ai beaucoup de respect pour, puis j'ai une bonne relation avec.
Connais-tu le nouveau Éric Raymond?
Non, pas en tout. La seule affaire que je sais d'Éric Raymond, c'est que c'est un des meilleurs amis à Dominique Ducharme. À partir de ça, c'est pas mal tout ce que je sais d'Éric Raymond. Je souhaite bonne chance. C'est un beau défi, c'est une belle position. Et puis, je souhaite la meilleure des chances.
Puis un papier goaler dans les mains qui est en finale de la Coupe cette année, il y a quelques semaines encore.
Il n'y en a pas un méchant, je peux te le dire. Mais...
Hey Stéphane, me dire une affaire, ça part fort, tout un moment de radio avec toi, puis écoute, je m'attends pas à rien de moi, c'est pas pogné tant que ça, on a pas assez proche tout à l'heure, mais tu sais,
c'est un warm-up. On pourra pas tout le temps être d'accord, c'est impossible.
C'est impossible, surtout pas avec toi, me dire une affaire, oublie ça. Steph, 10 sur 10, merci beaucoup, je te le redis encore, je le dis à tout l'auditoire, Steph a commencé avec nous dans la dernière série, membre de l'équipe des amateurs de sport, membre à temps complet, comment dirais-je, membre à part entière. Excusez-moi, je cherchais mes mots.
Ça me fait plaisir, on va être fun.
C'est sûr. Bye, Steph. Attention à toi.
OK, Mario.
Bye, à très bientôt. Bye. Retour après la pause. Félix, ça va très bien, merci. 5-2. Première manche. Les Blue Jays, ça va très bien, merci. Et je vais très bien, merci. J'espère que vous allez bien également. On vient dans un petit moment.